VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonsoir, le monde aujourd'hui, édition du jeudi 25 juillet 2019, Eric Manilakiza en direct de Washington pour commencer les principaux titres. Naufrage au large de la Libye, plus de 100 migrants sont portés disparus. La Tunisie a un président par intérim, Mohamed Ennasser succède à Beji Caïd Essebsi, décédé ce matin. Les musulmans de la RDC ne recevront pas de visa pour le pèlerinage à la Mecque en raison de l'épidémie Ebola dans l'est de leur pays. Polémique autour de la confection de la carte nationale d'identité en Centrafrique.
Personne en tant que Centrafricain ne peut accepter à ce que ces documents d'identité soient gérés et pilotés que par des étrangers.
Premier gouvernement du nouveau Premier ministre britannique Boris Johnson. Le Brexit est sa priorité. Ne manque pas notre page des sports et l'immunité co. Pour l'instant, le journal. Plus de 100 migrants sont portés disparus après le naufrage aujourd'hui de leur bateau au large de la Libye, ont indiqué une agence de l'ONU et la marine libyenne qui font état d'une centaine de rescapés. Le haut commissaire de l'ONU pour les réfugiés ACR, Filippo Grandi, a déploré sur Twitter ce qu'il a appelé la pire tragédie en Méditerranée. L'équipe de Médecins sans frontières en Libye, qui a prodigué des soins à 135 migrants rescapés du naufrage de leur embarcation, estime, selon les récits recueillis auprès des survivants, que près de 400 personnes se trouvaient à bord. Le premier président élu démocratiquement en Tunisie, Beji Caïd Essebsi, est décédé ce jeudi à l'âge de 92 ans, ouvrant la voie à une élection présidentielle anticipée. Suivez Nathalie Barge.
Aussitôt après son décès, le chef du Parlement, Mohamed Ennasser, 85 ans, a prêté serment pour assurer la présidence par intérim. Beji Caïd Essebsi avait été élu fin 2014, 3 ans après la révolution qui chassa du pouvoir le président Zine El Abidine Ben Ali. Un scrutin législatif est prévu le 6 octobre et une présidentielle le 17 novembre. Mais le président de l'instance supérieure indépendante des élections, Nabil Bafoun, a assuré que la date de la présidentielle serait avancée afin de respecter le calendrier prévu par la Constitution. Celle-ci prévoit un intérim de 90 jours maximum. Le roi Mohamed VI du Maroc et le président français Emmanuel Macron ont rendu hommage aux défunts dirigeants tunisiens. La chancelière allemande Angela Merkel a salué un acteur courageux sur le chemin de la démocratie et le président du Conseil italien Giuseppe Conte, un homme d'État d'une grande humanité.
La présidence algérienne a dévoilé les 6 personnalités nationales chargées de mener le dialogue censé faire sortir l'Algérie de plusieurs mois de crise politique. Mais sur cette liste, aucune figure importante de la contestation n'apparaît. L'ONG Action contre la faim demande la libération de 6 de ses employés, dont une femme enlevée il y a une semaine au Nigeria par un groupe djihadiste qui a diffusé une vidéo des otages. N'est-ce pas Yacouba Ouedraogo?
Dans la vidéo diffusée par le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, branche de Boko Haram, une femme vêtue d'un hijab affirme en anglais qu'elle est membre de l'ONG Action contre la faim. Elle a ajouté qu'elle a été enlevée avec ses 5 collègues, des chauffeurs et agents de santé contractuels de l'organisation humanitaire française, assis derrière elle dans la vidéo. Elle a demandé à son employeur et aux autorités nigérianes d'aider à leur libération. L'ONG a réagi, demandant la libération de ses employés qui travaillaient dans le cadre d'un programme humanitaire piloté par elle dans l'état de Borno. Dans un communiqué publié vendredi après l'attaque du convoi dans lequel se trouvaient les employés, ACF a expliqué qu'un des chauffeurs avait été tué. Mais selon des témoignages, les 6 personnes ont été vues transportées par leurs ravisseurs vers le nord-est du pays. Les 6 employés ont été enlevés jeudi en revenant sur leur base à Damasak, à la frontière entre les états de Yobe et du Borno. Ils rentraient d'un village voisin où ACF dirige une clinique lorsque des hommes armés ont ouvert le feu, selon une source humanitaire qui travaille dans cette région.
Les leaders de la contestation soudanaise ont annoncé aujourd'hui avoir mis fin à leur dissension avec les groupes rebelles, promettant de travailler ensemble pour la paix. Le 17 juillet, les 2 parties ont signé un accord sur le partage du pouvoir pour établir une autorité civile de transition, principale demande des manifestants. Le chef du principal syndicat de journalistes soudanais est en détention. Ce syndicat a appelé les généraux au pouvoir à le libérer immédiatement ou à le juger. La justice du Niger a condamné l'État à verser 10 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts à une télévision locale temporairement fermée lors d'une manifestation interdite contre la loi de finances en 2018, a annoncé son avocat. Les musulmans de la RDC seront privés de visa d'entrée en Arabie Saoudite pour le pèlerinage à la Mecque en raison de l'épidémie Ebola qui s'est vue depuis un an dans l'est du pays. Cette épidémie d'Ebola inquiète les autorités en Centrafrique. D'après le ministre de la Santé, Pierre Somsé, le pays n'est pas préparé à affronter une propagation de cette épidémie d'Ebola. À ce jour, aucun cas d'Ebola n'a cependant été enregistré en Centrafrique. La ministre zimbabwéenne de l'Environnement et du Tourisme a été arrêtée par la Commission anticorruption du Zimbabwe. Prisca Mufumira est le premier responsable à être visé ainsi par la Commission Nouvelle Formule.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Aux États-Unis, l'administration de Donald Trump a annoncé la reprise des exécutions de personnes condamnées par des tribunaux fédéraux. La dernière remonte à 16 ans. Le ministère de la Justice a donné un nouveau protocole d'injection létale et programmé 5 exécutions qui auront lieu dans une prison fédérale de l'Indiana. La menace de destitution de Donald Trump semblait encore plus hypothétique au lendemain du témoignage minimaliste de l'ex-procureur spécial Robert Mueller, en charge de l'enquête russe qui oblige l'opposition démocrate à se tourner résolument vers la prochaine présidentielle. Les démocrates devraient se rencontrer aujourd'hui à huis clos pour discuter de l'étape suivante. Le nouveau Premier ministre britannique Boris Johnson a réuni aujourd'hui les poids lourds de son gouvernement fraîchement nommé. Première étape de sa bataille pour résoudre la crise du Brexit qui dure depuis 3 ans et qu'il promet de régler en 3 mois. Les précisions de John Lyndon.
Après sa première nuit à Downing Street, Boris Johnson a réuni son premier conseil des ministres dans la matinée. Il s'est débarrassé d'une très large partie de l'équipe de Theresa May, opérant un virage à droite et notamment au poste clé de fervents partisans du Brexit, comme Dominic Raab, 45 ans, qui a hérité de la diplomatie. Priti Patel, 47 ans, nouvelle ministre de l'Intérieur, ou encore Jacob Rees-Mogg, 50 ans, chargé des relations avec le Parlement. C'est la purge la plus brutale de l'histoire politique moderne, affirmait le quotidien conservateur Times. Massacre ministériel, commentait le tabloïd Daily Mail, et pour un autre quotidien de gauche, ce gouvernement est le plus à droite depuis les années 1980. Boris Johnson a promis dans son premier discours devant Downing Street mercredi de sortir de l'Union européenne le 31 octobre sans condition. Ce jeudi, le nouveau Premier ministre s'est également adressé pour la première fois aux députés britanniques. L'ex-ministre des Finances Philippe Hammond, redevenu simple député, a promis d'empêcher un Brexit sans accord.
Paris a pulvérisé aujourd'hui son record historique de chaleur qui datait de plus de 70 ans avec 42,4 degrés Celsius enregistré à 13h20 temps universel à la station de Paris-Montsouris. Le record avait été battu dès le début de l'après-midi avec 41 degrés et le thermomètre est susceptible de grimper encore d'ici la soirée. La Corée du Nord a tiré de missiles de courte portée dans la mer jeudi pour manifester sa colère face à des exercices militaires conjoints prévus entre Séoul et Washington. Irénée Herman-Hump.
L'état-major interarmé sud-coréen a annoncé que les 2 missiles avaient été tirés de Wonsan sur la côte orientale nord-coréenne. L'un a parcouru 430 km avant de s'abîmer en mer. L'autre, qui semblait être un nouveau type de missile, a volé sur 690 km. Nous appelons le Nord à cesser ses opérations qui ne contribuent pas à l'apaisement des tensions militaires, a fait savoir Choi Eun-soo, porte-parole du ministère sud-coréen de la Défense. Le ministre japonais de la Défense a dénoncé de son côté des tirs extrêmement regrettables, indiquant toutefois que les missiles ne s'étaient pas abîmés dans la zone économique économique exclusive du Japon. Il s'agit des premiers tirs de missiles depuis la rencontre interrompue le mois dernier entre Donald Trump et Kim Jong-un dans la zone démilitarisée qui divise la péninsule coréenne. Le président américain et le dirigeant nord-coréen avaient alors convenu de reprendre les discussions, mais cet engagement ne s'est pas encore concrétisé et Pyongyang a averti récemment que le processus pourrait dérailler si les manœuvres militaires se déroulaient comme prévu en août.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Nanit Sivanitalani développe l'actualité économique en Afrique et ailleurs.
La Namibie envisage d'ajouter 220 MW à son réseau électrique d'ici 2023 pendant qu'elle cherche à réduire ses importations. La Namibie, qui a une capacité de 606 MW, est un pays importateur net d'électricité, principalement de pays voisins comme la Zambie et l'Afrique du Sud. NamPower, la compagnie namibienne d'électricité, construira des générateurs éoliens, solaires et à biomasse dans les régions centrales et côtières pour fournir 150 MW. La Tanzanie a octroyé des licences à des entreprises chinoises pour la construction d'une fonderie de minerais et de deux raffineries d'or dans le cadre de ses efforts visant à générer davantage de revenus provenant de l'industrie minière. Le ministère des Minéraux a déclaré que d'autres sociétés chinoises se verront prochainement attribuer des licences d'exploitation de mines. Chacune d'elles nécessitera un investissement de plus de 100 millions de dollars. Pour terminer, le FMI débloquera une nouvelle et dernière tranche de prêts d'environ 2 milliards de dollars pour l'Égypte, ce qui fait un total d'environ 11,9 milliards de dollars depuis novembre 2016. Le fonds estime que le pays a atteint ses principaux objectifs dans le cadre du programme de ses réformes économiques cruciales entreprises.
Et sans transition, nous passons à la page d'espoir avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Des nouvelles de la première édition de l'AfroCan en basketball pour commencer, n'est-ce pas?
Oui, la compétition a débuté le 19 juillet à Bamako et va s'étendre jusqu'au 28 de ce mois. Les demi-finales se jouent ce soir. On fait le point avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Il s'agit de la première édition de la FroCan, l'équivalent du CHAN, Championnat d'Afrique des Nations en football, qui depuis 10 ans met en lumière les joueurs évoluant dans leurs championnats nationaux respectifs. La seule différence en basketball est qu'en phase finale, sur les 12 joueurs qualifiés par sélection nationale, 8 doivent provenir du championnat local, 2 de l'Afrique et les deux derniers d'un autre championnat en dehors du continent. Kenya, Maroc et Angola RDC sont les affiches du dernier carré de la première édition de ce tournoi qu'accueille le Mali. Les Lions marocains qui ont sorti la sélection haute, le Mali, affrontent des surprenants Kenyans, vainqueurs en quart de finale des Tunisiens 82 à 76. L'autre demi-finale mettra aux prises à 20h30 temps universel deux pays voisins, l'Angola qui a surclassé tous ses adversaires jusqu'ici à la République démocratique du Congo. Les Léopards basketball, auteurs comme les Palancas Negras d'Angola d'un parcours sans faute. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Basketball toujours ici en NBA, Kevin Love n'ira pas en Chine pour le mondial de la discipline.
L'attaquant des Cleveland Cavaliers, champion olympique avec l'équipe des États-Unis au JO de Londres en 2012 et champion du monde 2010 en Turquie, a informé l'entraîneur national Greg Popovich de sa décision. Il rejoint ici une liste grandissante de joueurs NBA de premier plan qui ne défendront pas les couleurs de leur pays au championnat du monde du 31 août au 15 septembre. Parmi eux, le MVP James Harden des Los Angeles Lakers, Anthony Davis et Damian Lillard de Portland, Tobias Harris et autres. Ces joueurs ont invoqué leur préparation pour la prochaine saison de NBA qui débute le 22 octobre ou des raisons personnelles pour expliquer leur décision. Les États-Unis se rendent en Chine avec pour objectif de conquérir leur troisième couronne mondiale après leur sacre de 2010 et 2014.
Et on termine avec le football, Yacouba. Transfert, Jordan Ayew s'engage définitivement avec Crystal Palace.
L'international ghanéen s'est engagé pour 3 ans avec Crystal Palace, club de première ligue où il était déjà prêté la saison dernière. L'attaquant de 27 ans a été cédé par Swansea pour une somme estimée à 2,8 millions d'euros. « Je suis très heureux, je me suis vraiment fait plaisir la saison dernière », a affiché le cadet des Fers Ayew sur le site du club. Buteur 2 fois à la CAN avec le Ghana, Jordan Ayew a inscrit un but en 20 matchs disputés avec Palace lors du dernier exercice de première ligue.
C'était l'espoir de Yacouba Ouedraogo. Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Eric Manelakiza. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le premier président tunisien démocratiquement élu, Béji Caïd Essebsi, est décédé ce matin à l'âge de 92 ans. Dans la foulée, le chef du Parlement, Mohamed El Nasser, a prêté serment pour assurer la présidence par intérim. Monsieur Essebsi avait été élu fin 2014, 3 ans après la révolution qui a chassé du pouvoir le président Ben Ali. Un scrutin législatif est prévu le 6 octobre et une présidentielle le 17 novembre. Mais le président de l'instance électorale, Nabil Bafoun, a assuré que la date de la présidentielle serait avancée afin de respecter le calendrier prévu par la Constitution qui prévoit un intérim de 90 jours maximum. Pour une analyse, Nathalie Barge a joint l'analyste des questions africaines, Athanase Karayenga, qui revient sur l'héritage politique du président Essebsi.
C'est un héritage énorme parce qu'il est quasiment présent dans l'histoire de la Tunisie depuis l'époque de Bourguiba. C'est un homme qui a connu une carrière extrêmement riche, diversifiée. Il a été ministre, il a été premier ministre, il a été ambassadeur de Tunisie à Paris. Bref, il a été chef de parti politique. Bref, il a vraiment joué à toutes les touches du piano. Et maintenant, c'est malheureusement la vie a une fin. À 92 ans, il a tiré sa révérence et je crois qu'il faut juste s'incliner.
Le chef du Parlement a été intronisé ce jeudi président par intérim. Il a 90 jours pour organiser une présidentielle. Ça change un petit peu les plans des élections. Donc, est-ce que vous pensez que tout ce processus va bien se passer?
Je l'espère surtout que ça va se passer très bien parce que la Tunisie traverse une période très très instable. D'abord le contexte régional. La Tunisie est entourée à l'est par la Libye, qui est véritablement en situation de guerre et de grandes difficultés. Puis la grande Algérie à l'ouest, qui est elle-même traversée par de grands mouvements politiques et de grands changements. C'est d'abord cette donne qu'il faut analyser et voir si la Tunisie qui a initié la révolution arabe, qui a réussi à faire une transition, qui a réussi à mettre fin à une dictature, qui a réussi à mettre sur pied des institutions démocratiques, est-ce que la Tunisie va réussir son pari jusqu'au bout?
Quant à l'avenir politique par rapport à cette scission au sein du parti présidentiel, on a la création de Taïa Tounes, de Toubal, et conflit avec le fils Essebsi. Comment analyser cela? Comment voir cela jusqu'au moment des élections?
Ça va être très difficile parce que malheureusement le président qui s'en va, qui est décédé, a cédé à la facilité de tous les chefs d'État africains qui s'éternisent au pouvoir et souvent confondent la famille avec l'État. Le chef de l'État décédé a mis en avant son fils et ça a provoqué l'éclatement du parti politique, de son parti politique. Il y a une fraction qui est absolument hostile à la montée en puissance du fils. Mais en même temps, il ne faut pas perdre de vue que l'équilibre de la Tunisie tenait entre le président décédé et le parti Ennahda. Ils ont réussi, les islamistes, ils ont réussi à un équilibre très très précaire. Ce qui fait que si la lutte interne dans le parti du président défunt, le partenaire islamiste, se passe mal, la Tunisie peut vraiment sombrer dans une période de sécurité et de grands dangers.
Athanase Karayenga, analyste politique et consultant en communication, joué en France dans la région lyonnaise.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Centrafrique, l'attribution du marché de confection de la carte nationale d'identité et d'autres documents administratifs à une société libanaise fait monter la tension dans le pays. Syndicats de police, hommes politiques et sociétés civiles
tous s'insurgent contre cette décision des autorités de Bangui. La correspondance de Friban Sipila.
La confection de ces cartes nationales d'identité a cessé depuis la prise de pouvoir par la coalition rebelle Séléka en mars 2013. Tous les appareils avaient été pillés et le bâtiment saccagé. Depuis lors, le département de la sécurité ne délivre que des récépissés qui ne durent que 3 mois renouvelables. Après une première tentative échouée d'attribution du marché de confection de ces documents à une société étrangère en 2017, le gouvernement décide cette fois de l'attribuer à une société albanaise. Libanaise dénommée Al-Madina malgré un avis défavorable d'une équipe d'experts. Al-Madina est cette entreprise qui confectionne depuis quelques mois déjà les titres de transport en Centrafrique. Là où le bât blesse, c'est l'augmentation du frais d'établissement de cette carte qui doit passer de 5 000 francs à 15 000 francs CFA avec une validité de 5 ans au lieu de 10 ans comme la loi le demande. Le syndicat des policiers s'insurge contre cette décision et s'inquiète pour la sécurité du pays. Colonel Mathurin Barnabé Lamba, secrétaire général du syndicat.
Le chef de département a confié la délivrance de la carte de séjour, des cartes nationales d'identité, des visas, des déclarations de perte, de laissez-passer et sauf conduit à une société libanaise nommée Al-Madina. Ça, c'est un manque à gagner pour l'État. Et vous savez que présentement, l'État est en train de traverser une période critique où les mercenaires, cela va passer, le ministre lui-même, il a dit qu'il y a des mercenaires qui sont là. Et si on donnait ce droit-là à cette société libanaise, mais il y aura encore des terroristes qui vont venir.
Le ministre de la Sécurité publique, le général Henri Wanze Lingisara, est mis en cause dans cette affaire qui fait encore un buzz sur les réseaux sociaux. Parmi ses revendications adressées ce mardi au gouvernement, l'opposition réclame la révocation du ministre en question. Gervais Lakosso, coordonnateur du mouvement Ezingo Biani.
Ezingo Biani, Front Uni pour la défense de la nation, ajoute les revendications ci-après à celles déposées sur la table du gouvernement. La révocation du gouvernement et la traduction des ministres des Mines, de la Sécurité publique et de l'Environnement devant la justice. L'annulation de l'acte d'attribution à la société Al-Madina du marché d'établissement des cartes nationales d'identité et autres documents administratif.
Dominique Yandouka, secrétaire général du mouvement politique ITA, dénonce une attitude irresponsable des autorités de Bangui.
Je demande en tant que centrafricain au ministre de la Sécurité publique de sursoir à cette prise de décision car c'est une décision non seulement qui met le pays en danger, mais c'est une honte. Donc personne en tant que centrafricain ne peut accepter à ce que ces documents d'identité soient gérés et pilotés que par des étrangers.
Éclaboussé par des réactions ça et là, le gouvernement n'a pas encore réagi à cette affaire. Entre-temps, les appels au boycott se multiplient sur les réseaux sociaux. Frimansi Pila, Bangui, pour VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Au Tchad, les responsables de la BAC, la Banque centrale des États d'Afrique centrale, appellent à l'application stricte des lois sur les transactions bancaires dans la région. L'objectif étant de mieux lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du capitalisme. André Kodmadjingar.
La nouvelle réglementation d'échange que la Commission bancaire de l'Afrique centrale entend vulgariser auprès des États membres de la zone CEMAC est une loi portant sur l'encadrement de toute transaction courante ou en capital pour le paiement lors d'une rencontre de 5 jours qui s'achève ce jeudi à N'Djamena.
On était dans un cas de figure où il y a une loi qui était pertinente, rigide, mais qui n'était pas appliquée. Aujourd'hui, à la faveur de la crise, il faudrait bien faire appliquer nos lois.
Abbas Mohamed Touli, gouverneur de la BAC et président de la Commission bancaire de l'Afrique centrale.
Si nous voulons avoir un France CFA fort, qui préserve l'épargne publique, qui préserve leur pouvoir d'achat, eh bien, ça passe justement par ce texte.
Pour lui, l'ancien dispositif sur la réglementation d'échange instauré en 2000 a des limites liées à la conjoncture économique, mais aussi et surtout à l'évolution de la technologie et du cadre normatif au niveau de la CEMAC et de la Banque centrale. Il juge ce nouveau dispositif approprié.
Aujourd'hui, les pratiques ont changé. Il y a plusieurs supports de paiement. Vous avez les cartes privatives, vous avez les cartes
Visa, Mastercard, vous avez des paiements électroniques qui se font sur Internet. Et je pense qu'il y a aussi des compagnies de téléphonie mobile qui font l'activité aussi des banques. Ce texte vient réglementer ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire.
Aujourd'hui, nous intégrons à cette démarche de sensibilisation la commission bancaire qui, au terme de ce règlement, a également de nouvelles responsabilités en termes de suivi prudentiel sur ces aspects dans son rôle de superviseur.
Pour l'administrateur directeur général de la Société de télécommunications du Cameroun, Dr. Pedom Victor, cette loi permet de faire une prévention contre un éventuel financement du terrorisme.
Au sein de nos institutions, il sera question de former le personnel à cette nouvelle réglementation. Il sera également question maintenant d'aller vers les partenaires pour leur montrer quel est l'intérêt, n'est-ce pas, de cette nouvelle réglementation, tant pour eux que pour nous, n'est-ce pas, que pour la communauté entière. Le terrorisme est une réalité. Donc je pense que c'est de la prévention. Et pour cela, il était important, n'est-ce pas, de réagir. Alors, il ne faut pas être surpris, quoi.
Selon les autorités monétaires, l'espace dans lequel évolue l'industrie bancaire de la CEMAC nécessite une cybersécurité adéquate et donc les instances de gouvernance devraient prendre en compte les préoccupations liées à l'environnement numérique pour la lutte contre ces fléaux. André Kodmadingar Ndjamena, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
La situation alimentaire du Zimbabwe est devenue alarmante. Selon un rapport des Nations Unies, le document stipule qu'une majorité de la population vit dans l'insécurité alimentaire en raison de la sécheresse provoquée par El Niño et la crise économique actuelle. Le reportage de Columbus Mavunga, présenté par Blanche Salon.
Dans la banlieue de la capitale Harare, Plexides Chibura arrive à peine à joindre les deux bouts. Âgée de 48 ans, sans emploi, elle a du mal à nourrir ses petits-enfants.
Nous n'avons qu'un seul repas par jour. Parfois, ce sont des légumes que nous cueillons dans notre jardin. On se bat pour obtenir de l'argent et acheter de la nourriture. Je souhaite que nous puissions avoir de l'aide, surtout pour les enfants, car je suis au chômage. Même les frais de scolarité, je ne peux pas les payer. Quand ils sont malades, je n'arrive pas à couvrir les frais médicaux.
La sécheresse qui sévit actuellement a dévasté les cultures, notamment le maïs qui est l'aliment de base dans le pays. En outre, le cyclone Idai a détruit de nombreux champs en mars dernier, quelques semaines seulement avant la récolte. Une situation critique et préoccupante qui ne laisse pas indifférent, comme le témoigne Bichot Parajouli.
Malheureusement, nous passons d'une crise à une urgence. Ce qui est assez grave. En plus des défis économiques auxquels le pays est confronté, les gens ont perdu leurs revenus. La situation est vraiment précaire. Nous comptons sur la générosité de la communauté internationale, étant donné les contraintes du Zimbabwe.
Dans un contexte économique très difficile, l'augmentation des prix de la nourriture pourrait se faire ressentir partout dans le pays. Au problème de l'alimentation s'ajoute celui de la pénurie de liquidité qui a déjà perturbé par le passé les projets du Programme alimentaire mondial lors de précédentes crises alimentaires au Zimbabwe. La ville de Harare est aussi confrontée à un manque d'eau potable crucial, faisant craindre des maladies d'origine hydrique telles que le choléra. Les Nations Unies exhortent les agriculteurs à investir dans l'irrigation pour améliorer la sécurité alimentaire du pays. Selon les Nations Unies et le gouvernement, le Zimbabwe a besoin d'environ 218 millions de dollars pour lutter contre la faim d'ici avril 2020.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans plus manquer et nous appeler, participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Ainsi va le monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition de 19h30 temps universel. Merci de l'avoir suivi. Merci à Josette Mauricien pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Eric Manelakis à Washington. Au revoir.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan. À Brazzaville, sur 101.9 FM. À Lomé, 99.5 FM. 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso, et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.
Bienvenue à bord.